Alors, lorsque nous avons préparé ces journées d'études, je crois que c'était au début de l'année, janvier-février, nous n'avions pas prévu que se tiendrait ce week-end à Paris le premier colloque international organisé en France sur le transhumanisme. Donc, vous voyez, nous sommes en pleine actualité, ce qui nous vaut par exemple deux pages d'articles sur le transhumanisme dans La Croix d'hier. Nous n'avions pas prévu non plus, lorsque le titre de l'intervention a été arrêté, le titre c'est « Le transhumanisme est-il encore un humanisme ?» point d'interrogation. Nous n'avions pas prévu que le Figaro d'hier ferait un article intitulé « Le transhumanisme n'est pas un humanisme ». Donc, inutile d'en dire davantage sur l'actualité de cette conférence. Venons-en maintenant rapidement à son importance et aux enjeux qu'elle aborde, qu'elle approche. Je ne peux pas résister au plaisir de vous citer un petit passage donc de l'article du Figaro d'hier. C'est la citation qui est faite, que je vais vous lire, est citée en repoussoir. Hein. Donc c'est Kevin Warwick qui se présente comme le premier cyborg de l'histoire de l'humanité et qui dit ceci. « Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. » Nous entrons dans le sujet. Alors, pour le présenter, nous avons la chance d'avoir parmi nous un ami, mais aussi très compétent, puisque Jean Guillaume est biologiste médical. Il est l'auteur du document Episcopat sur le transhumanisme. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il est aussi président d'honneur de Au Captif la Libération, donc cette association qui travaille à Paris, mais aussi maintenant au-delà de Paris, intramuros en tout cas. Et je vous signale un livre qui vient tout juste de paraître, écrit donc par Jean Guillaume, c'est son troisième. À quoi sert un chrétien? Je ne saurais trop vous le recommander, il est très tonique et il est vraiment, vraiment dans la ligne, en la développant évidemment et la prolongeant, dans le propos de nos journées d'études. Donc je ne saurais trop vous le recommander, il vient vraiment tout juste de paraître. Donc vous voyez, on est en pleine activité. Alors, Jean Guillaume, je vous laisse la parole. Les chimpanzés du futur vous écoutent avec joie.
Voilà, donc c'est un chimpanzé qui s'exprime aussi là. Merci à l'Institut Notre-Dame de Vie et merci Bernard de cette invitation et surtout merci de m'avoir présenté comme un ami, car je suis bien un ami de l'Institut. Et à vrai dire, je n'ai pas hésité à répondre favorablement à cette invitation. Parce que cette amitié, parce que j'ai souvent bénéficié, fait l'expérience de votre hospitalité, et que pour en ce qui concerne l'écriture, c'est vraiment notre âme de vie que je trouve l'inspiration. Donc je vous remercie tous à cette occasion pour votre hospitalité et vos prières. Je suis aussi heureux d'être là, parce que pour une fois que j'ai notre âme de vie, là je peux parler, enfin. Voilà. Et puis enfin, Bernard le disait en introduction, c'est un sujet, effectivement, le transhumanisme très actuel. Et troisième, j'allais dire, motif de satisfaction, c'est qu'on puisse, entre chrétiens, pour une fois, être dans l'anticipation et pas simplement dans la réaction par rapport à des problématiques qui nous arrivent et pour lesquelles on apparaît souvent contre, souvent opposant. Là, le transhumanisme, c'est une problématique actuelle. Il y a tous les événements qu'a cité et la couverture médiatique qu'a cité Bernard. Il y a aussi les semaines sociales de France qui sont ce week-end et qui sont aussi consacrées à la technologisation de l'humain. Mais on a encore le temps, j'allais dire, on est encore dans l'anticipation, on a encore le temps de réfléchir et de à ce qu'il faut en penser, comment se positionner. Donc il est heureux que voilà, les chrétiens aujourd'hui soient en anticipation sur cette question. Alors mon propos comportera deux grandes parties. C'est une première partie, ça sera d'essayer, enfin le transhumanisme, de quoi parle-t-on? Je me permettrai pas de dire, de donner une définition, parce que c'est beaucoup trop, voilà, des contours finalement flous et qui se cherchent encore. Mais en gros, de quoi on parle, voilà. Et puis une deuxième partie qui sera plutôt consacrée à quelles questions pose finalement le transhumanisme. Alors, on l'a vu, il y a beaucoup d'articles aujourd'hui, beaucoup de littérature qui commence à sortir sur le transhumanisme. Le symbole du transhumanisme, c'est H+. Enfin, je dis ça si jamais vous voyez des choses. C'est H+, au sens de humain augmenté. Enfin, plus, voilà. Un humain plus quelque chose. Donc, c'est H+, humain augmenté. Et ce terme, en fait, est apparu en 1957. C'est une petite histoire, mais ça en dit long. Je ne sais pas si vous connaissez George Orwell, celui qui a écrit 1984, un roman vraiment d'anticipation et qui se révèle d'une pertinence absolument troublante. Mais finalement, c'est le frère de George Orwell qui a utilisé pour la première fois le mot de transhumanisme. Huxley. Merci. Ah, je vois qu'il y a une connaisseuse. Huxley. Le frère de Aldous Huxley. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'on se dit, enfin, moi, à chaque fois, je me dis, mais dans quelle famille, quels parents ils ont eu, dans quelle famille ils ont grandi pour effectivement, voilà. Donc, c'est un mot qui est apparu en 1957. Mais finalement, qui a commencé à véritablement être employé, vraiment se développer à partir des années 80. Pourquoi partir des années 80 ? Parce que finalement, le transhumanisme, c'est une double réalité. C'est une réalité philosophique et c'est une réalité technique. Et qu'il a fallu attendre finalement, justement, le décours des années 80 pour que cette réalité technique commence véritablement à prendre suffisamment forme pour que justement les développements philosophiques et l'élaboration philosophique puissent se poursuivre. Quand je parle de double réalité philosophique et technique, je veux dire par là que la perspective philosophique, et la phrase que nous rappelait Bernard le disait bien, hein, c'est du transhumanisme. Elle est explicitement précisée un certain nombre de documents, dont un document de 1999 écrit par l'Association Transhumaniste Mondiale, qui a écrit une charte dans laquelle, effectivement, on voit un petit peu quels sont les enjeux. Donc, c'est le droit moral pour ceux qui le désirent de se servir de la technologie pour accroître leur capacité physique, mentale, reproductive et d'être davantage maître de leur propre vie. Nous souhaitons nous épanouir en transcendant nos limites biologiques actuelles. Voilà, donc au moins on voit que c'est clair, on met ça en résonance avec la phrase qu'on a entendue à l'instant, il y a beaucoup de phrases qui sont de cette nature, on voit qu'il y a une philosophie qui est celle, voilà, de transcender l'homme tel que l'humain se présente aujourd'hui. Donc réalité philosophique. Réalité technique aussi. Pourquoi le transhumanisme arrive aujourd'hui ? Parce que aujourd'hui, on commence à rentrer dans ce que les transhumanistes appellent la grande convergence. La grande convergence, c'est quoi ? C'est la convergence de quatre types de technologies qui se sont énormément développées dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui aujourd'hui arrivent suffisamment à maturité pour pouvoir se renforcer les unes les autres. Ces quatre technologies, c'est ce qu'on appelle les NBIC. N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour informatique et C pour sciences cognitives et du cerveau. Alors, d'ailleurs, si pendant l'exposé, on échangera peut-être soit un tout petit peu ce soir, soit demain, mais si pendant l'exposé, il y a des mots techniques ou scientifiques que vous ne comprenez pas, vous le dites tout de suite, et voilà, j'essaierai peut-être de repréciser des choses. Donc, en fait, ces quatre technologies, voilà, nanotechnologie, biotechnologie, donc génie génétique, biologie moléculaire, enfin, en gros, les gènes, voilà, tout ce qui est informatique, voilà, transmission de l'information, et puis tout ce qui est science du cerveau. En fait, ces quatre disciplines ont véritablement ont été inventées, se sont vraiment développées deuxième moitié du XXe siècle. Maintenant, elles sont chacune d'entre elles extrêmement pointues
et on arrive finalement à connecter, à faire converger justement ces quatre matières entre elles. Et c'est parce que on est maintenant en mesure de faire converger justement ces quatre disciplines technologiques entre elles que peut naître le projet et qu'il peut prendre forme, non plus de transformer simplement la vie qu'il y a, l'environnement de l'homme, comme les sciences et les techniques ont progressivement procédé, mais de modifier l'humain lui-même. Voilà. Et donc c'est pour ça que je mets en relation, en résonance, cette perspective philosophique qui d'une certaine façon n'est pas nouvelle. L'immortalité, que l'humain dépasse ses limites, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que l'humanité est aujourd'hui à une étape de son histoire où l'humain maîtrise suffisamment les technologies multiples pour effectivement pouvoir changer, enfin, l'humanité en elle-même, hein, parce qu'il y a d'humain chez nous. C'est bon ça ? Ouais. Donc ça, c'était un petit peu l'introduction et le paysage. Hein. Pourquoi ça surgit maintenant ? Parce que la réalité technologique maintenant sont suffisamment maîtrisées pour cela. Alors, qu'est-ce que finalement le transhumanisme peut transformer ? Qu'est-ce que ces technologies peuvent transformer ? En fait, elles peuvent transformer schématiquement plusieurs choses. C'est schématique parce qu'en réalité, les choses s'intriquent les unes avec les autres. Mais pour rentrer un petit peu, nous aider à rentrer un peu dedans. D'abord, ces technologies NBIC, en fait, d'abord, elles vont permettre d'augmenter les performances physiologiques. Ensuite, les performances, tout le champ du cognitif. Ensuite, tout le champ du sensoriel, tout le champ du moral. Et puis, cinquième point, dans le monde du transhumanisme, il faudra apprendre à vivre avec des robots. Donc, il y a cinq choses qui vont être impactées dans notre humanité par les technologies transhumanistes. Alors, d'abord, première chose, effectivement, c'était le début du transhumanisme, c'était vraiment de modifier les performances physiques, physiologiques de l'humain. Ça veut dire, et d'une certaine façon, c'est déjà possible, l'humain, en tout cas, à construire dans la perspective transhumaniste, c'est un humain qui sera beaucoup plus robuste. On pourra rester sans dormir pendant des jours et des jours. Y en a qui vont être embêtés hein, pendant la sieste. Hein. Mais je parle de moi, bien sûr, je parle de moi. On pourra par exemple, rester en apnée pendant 30, 45 minutes, une heure. Voilà. On pourra supporter des températures négatives, moins 20 degrés, en étant en t-shirt. Voilà. Ou inversement, supporter des températures très chaudes. Voilà. Donc, on pourra courir très vite. Voilà. Donc, tout ce qui est modification des capacités physiques, physiologiques, finalement, des humains. Il y a tout ce qui est le champ aussi des performances cognitives. Donc, tout ce qui est cognitif, c'est tout ce qui concerne l'apprentissage. Donc là, ce serait intéressant que Yvette nous refasse la même conférence dans 25 ans pour que justement on voit un petit peu si les pédagogies, la psychopédagogie a évolué ou pas. Mais voilà, un chantier, c'est évidemment avoir beaucoup plus de mémoire, pouvoir apprendre, être sur des processus d'apprentissage beaucoup plus efficaces, rapides, puissants, connaître 10 000 langues en même temps, etc. Voilà, être plus intelligent, avoir un quotient intellectuel beaucoup plus important, etc. Hier, le colloque qu'évoquait Bernard de l'Association française de transhumanisme, le premier à se dérouler à Paris, j'ai assisté à leur débat hier matin, et c'était notamment sur comment, en fait, on allait organiser la répartition du quotient intellectuel dans la population, là, dans 20 ou 30 ans. Puisque, en gros, il faut surtout pas que tout le monde soit super intelligent. Voilà. Super intelligent, c'est important que eux le soient, les transhumanistes. Bon, par contre, nous, les chimpanzés, on peut être moins intelligents. Ça a été dit, alors pas avec les chimpanzés, mais enfin, ça a été dit comme ça. Et que, donc, ce qui compte, c'est que on peut être tous plus intelligents, mais qu'il y en ait quand même encore qu'ils soient beaucoup plus que d'autres, quoi. Voilà. Donc, tout le champ du cognitif. Voilà. Ensuite, il y a, en termes d'augmentation des performances, il y a tout le champ du sensoriel. Alors là, ça devient peut-être plus compliqué à imaginer. Enfin, vous me direz, pour moi, ça devient plus compliqué à imaginer, en tout cas. Tout le champ du sensoriel, ça veut dire que, en fait, tous nos sens seront potentialisés. Voilà, par exemple, je sais pas, l'ouïe, la vue, l'odeur, en fait, tous ces sens naturels, en fait, seront beaucoup plus sensibles. Un peu pour, je sais pas, ceux qui connaissent Steve Austin, là, l'homme qui valait 3 milliards. Voilà, il entendait des choses que n'entendaient pas les autres. Il voyait beaucoup plus finement. Donc, il y a tous ces sens qui seront exacerbés, si l'on peut dire. Parce que des rétines électroniques, parce que une olfaction bio-ionique, enfin, etc. Mais surtout, ce qui sera, me semble-t-il, là vraiment beaucoup plus difficile à imaginer, enfin, ce qui est beaucoup plus difficile à imaginer, c'est de créer des sens nouveaux ou des sens virtuels. Alors ça comment, là j'en vois qu'il commence déjà à dire, oula. Alors des sens nouveaux, je sais pas bien ce que ça peut être, mais ça peut être par exemple en fait, si on lit ou qu'on écoute, ça sera par exemple d'avoir la possibilité de voir ce qui se passe dans son dos. Voilà, par exemple. Voilà. Et des sens virtuels, c'est aussi le fait que nos sens ne soient plus simplement activés par des récepteurs extérieurs comme l'oreille externe ou le nez ou la vue, mais directement au niveau du cerveau. En fait, ce qu'envisagent les transhumanistes, c'est que comme on aura des nanorobots qui circuleront dans tout notre corps pour nous prévenir de maladies, etc., on en aura aussi des nanorobots qui circuleront dans notre cerveau pour stimuler telle ou telle zone de notre cerveau pour nous rendre super heureux ou super triste, mais directement au niveau central, pas au niveau périphérique. C'est clair ce que je dis ? Donc pour le dire autrement, en fait, une des perspectives des transhumanistes sur ce registre, c'est d'améliorer nos capacités émotionnelles. Voilà, ça, il le formule comme ça, d'améliorer nos capacités émotionnelles, ben pour atteindre, là aussi je les cite, la félicité perpétuelle. Je trouve ça assez fort, la félicité perpétuelle, ça s'invente pas quand même, enfin si, ceux qui l'inventent. Mais, et donc ça en dit, c'est-à-dire qu'en gros, même si vous vous embêtez à écouter un orateur qui parle le samedi soir du transhumanisme à 20h50, ben vous serez quand même heureux ou heureuse, quoi. Voilà. Donc c'est là où ils sont très forts. C'est là où ils sont très forts. Mais blague à part, en fait, c'est voilà le fait qu'on va créer artificiellement nos états d'âme. C'est ça que ça veut dire, et c'est ça l'objet. Hein, c'est ça l'objet. Hein, pour le coup du voilà, si on veut le formuler de façon plus sérieuse, c'est créer artificiellement, contrôler artificiellement nos états d'âme. Et puis dernier élément que je disais, c'est l'amélioration morale. Donc ça, c'était notamment la matinée à laquelle j'ai assisté de ce fameux colloque, la premier colloque hier matin. C'était en fait dans transhumanisme et humanisme. Et donc dire à un transhumaniste, ça n'est pas, vous n'êtes pas humaniste, lui, il comprend même pas le truc. Il comprend même pas le truc. Alors il vous en veut pas parce que de toute façon, il est dans la félicité perpétuelle, lui. Mais il comprend pas parce que pour lui, c'est un humaniste. Et j'étais frappé hier dans les débats auxquels j'assistais de voir que leur sujet, c'est vraiment de dire, il faut réduire les injustices, il faut qu'on soit dans un monde plus solidaire. Et en fait, comme la religion n'a pas réussi, les idéologies n'ont pas réussi, la politique n'a pas réussi, la psychanalyse n'a pas réussi. Donc évidemment, maintenant, il faut réfléchir à des choses artificielles, à la technologie. Et ils en sont convaincus. C'est-à-dire, le constat qu'ils font que la religion, la politique, etc. n'a pas réussi, voilà, pour eux, c'est sans discussion possible. Il n'y a pas de débat. Donc aujourd'hui, l'humain maîtrise suffisamment les technologies pour que peut-être, enfin, les technologies arrivent à faire qu'on soit davantage solidaire, qu'on soit moins injuste, qu'on soit plus dans l'empathie, plus dans la convivialité. Voilà. Et donc, le but hier matin, c'est toute la matinée, c'était de savoir si le cyborg, donc le transhumain, devait être vertueux et quelles vertus on devait créer artificiellement. Donc, vous voyez, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que le propos chez certains transhumanistes s'interroge vraiment sur l'humanisme. Alors après, on peut le partager ou pas. Bon, évidemment, je ne partage pas du tout. Mais il y a effectivement aussi cette performance morale qui, pour eux, fait complètement défaut. Voilà, il y a la guerre partout, on est tous méchants, égoïstes, etc. Donc, essayons artificiellement, par des drogues, par manipulation des gènes, etc., de rendre les humains plus vertueux. Voilà. J'allais dire les hommes et les femmes, mais je me suis aperçu en disant que dans le monde transhumaniste, ça n'avait plus forcément le même sens que nous, enfin aujourd'hui. Enfin, déjà que ça a beaucoup moins de sens qu'il y a quelques années, donc on imagine dans 25 ans. Voilà. Mais les humains, voilà, on raisonne en termes d'humains. Je suis en train de me dire peut-être une parenthèse sur ces quatre champs de technologie qui... Donc les sciences du cerveau, je pense qu'on voit bien ce que c'est les découvertes extraordinaires qui sont faites sur le fonctionnement neuronal, notamment sur le fonctionnement cognitif, mais aussi émotionnel. Si vous voyez, le dernier prix Nobel de médecine a été remis encore une fois à des chercheurs qui ont travaillé sur le cerveau et sur la capacité des humains à se géolocaliser dans l'espace et comment ils peuvent mémoriser spatialement leur situation. Donc il y a des découvertes extraordinaires dans le cerveau qui sont liées beaucoup, pas uniquement, mais beaucoup à l'imagerie, au progrès qu'on fait. Alors, dans le domaine médical, on connaît ça avec les scanners et les IRM, mais aujourd'hui, il y a des techniques notamment de transcrâniennes qui permettent en gros vraiment de savoir vraiment, mais alors au neurone près quasiment, en fait, ce qui se passe. Alors, si je ressens une émotion particulière et qu'on met ces systèmes de transcodage transcrânien, on va pouvoir voir exactement le neurone, enfin si tant est que j'en ai plusieurs, Sinon, c'est vraiment facile comme expérimentation. Mais le neurone qui est activé, quoi. Voilà. Donc, il y a des techniques aujourd'hui d'exploration neuronale qui sont, mais incroyables, quoi. On dirait que c'est la science-fiction, sauf que c'est vrai. Le génie génétique, tout le monde voit ce que c'est les gènes. Et puis, voir effectivement qu'est-ce que produit un gène comme caractéristique, voilà, qu'elle soit morphologique, qu'elle soit psychologique, etc. Voilà. Et puis, toutes les manipulations que l'on peut faire de toute nature pour justement faire en sorte que tel gène s'exprime et pas tel autre. Voilà, on pourrait revenir si vous voulez, j'en dis pas plus là, mais pour pas perdre de temps, mais c'est voilà, tout ce qui est génie génétique. Après, il y a tout ce qui est donc science de l'information. Donc les sciences de l'information, Yvette évoquait tout à l'heure le pape de la cybernétique, Norbert Wiener, qui est donc l'inventeur de la cybernétique, et donc c'est toute la science justement de l'information. Donc nous, ce qu'on connaît des sciences de l'information, c'est l'Internet. Bon. On se dit, bon, bah, très bien, il y a des risques, tout ça, mais enfin, finalement, c'est quand même pratique. Voilà, bon. Mais derrière, il y a une philosophie, il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes. En fait, pourquoi c'est plus complexe et ça nous concerne, c'est qu'il y a une vision anthropologique dans la cybernétique qui est que, en fait, l'homme n'est qu'un émetteur et récepteur d'informations. Tout comme il y a une anthropologie derrière le génie génétique à outrance, c'est que l'homme n'est qu'un paquet de gènes. Tout comme il y a une anthropologie derrière les sciences du cerveau, vue de façon extrême, qui est que l'homme n'est qu'un réseau neuronal. C'est là où ça commence à devenir intéressant sur le plan anthropologique, c'est que c'est pas que de la technique tout ça. C'est que derrière chacun de ces champs scientifiques, il y a une vision de l'homme qui peut être déroulée de façon, en tout cas que moi je considère comme extrême. Un homme qui n'est qu'un paquet de neurones, un homme qui n'est qu'un émetteur-récepteur dans un réseau cybernétique, dans un réseau, quoi. Voilà, on est tous un émetteur, une particule de réseau. Nous sommes tous qu'un paquet de gènes. Et puis les nanotechnologies. Je termine par celle-ci parce que c'est celle probablement que l'on méconnaît le plus, voilà, dans notre vie quotidienne, et en réalité celles qui sont sûrement les plus révolutionnaires. C'est quoi le principe des nanotechnologies? En fait, c'est de dire que les propriétés d'un objet sont différentes des propriétés de l'atome qui constitue cet objet. Je la refais. Là, on a un verre. Un verre, donc là c'est l'objet, un verre en plastique, voilà. Un gobelet en plastique. En fait, il est constitué d'atomes, d'accord? Les atomes, c'est tout ce qui permet de donner corps à la matière, d'accord? Ces atomes, en gros, c'est 1 milliard de fois plus petit que ce qui est visible. C'est pour ça qu'on dit nano, nanotechnologie, nano c'est 10⁻⁹, donc c'est 1 milliard de fois plus petit que, en gros, un mètre. Donc vous imaginez, vous imaginez pas tellement c'est petit, quoi. Bon, voilà. Et donc là, il y a des milliards et des milliards d'atomes. D'accord? Ce gobelet de verre, ce gobelet en plastique, en fait, il a des propriétés particulières. Par exemple, là, il est transparent. Et si c'était un gobelet en verre, si je le laissais tomber, il se casserait. En fait, le truc, c'est que maintenant, on est capable technologiquement d'aller au niveau de l'atome et de modifier les atomes eux-mêmes. Et les atomes eux-mêmes, en fait, n'ont pas du tout les mêmes propriétés que le paquet d'atomes. Voilà. Ça veut dire que, en fait, en bidouillant au niveau des atomes, en les configurant les uns par rapport aux autres de façon différente que, par exemple, dans ce gobelet, on pourrait faire des verres en verre incassables. On sait faire aujourd'hui des pneus inutilisables. On sait faire des pulls, ce qui serait bienvenu pour moi, qui ne prennent pas les taches. Voilà. Voilà. Par exemple, on peut faire, c'est ça, des carreaux qui ne se rayent pas. En fait, on peut donner des propriétés nouvelles. En fait, on peut donner des propriétés nouvelles. Voilà. Et ça paraît un peu de la magie, sauf que c'est pour le coup, c'est vraiment de la science. Que donc, là, voilà, ce qu'il faut retenir, voilà, un peu en science, c'est que la propriété des atomes est différente de la propriété des objets constitués de ces atomes. Et donc, comme maintenant, on a la capacité de bidouiller au niveau atomique, ben en fait, on peut créer des propriétés nouvelles. Donc ça, c'est absolument vertigineux. Voilà, on n'en a pas du tout en fait, on n'en prend pas la mesure des conséquences que ça peut avoir, ne serait-ce que sur l'industrie, ne serait-ce que sur nos modes de vie quotidiens, etc. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des nanorobots, parce que les nanorobots, donc, vous voyez, c'est des trucs qui sont milliardaires de mètres. Et effectivement, il y a d'ores et déjà des programmes de recherche qui sont lancés pour nous mettre ça dans le corps, dans notre circulation sanguine, dans nos poumons, dans nos cerveaux, pour soit détecter, par exemple, notre taux de sucre, notre glycémie, plutôt que d'aller chez le biologiste se faire faire sa prise de sang ou se mesurer la glycémie au bout du doigt. En fait, on aura des nanorobots qui vont circuler en permanence, qui vont mesurer notre tension, notre glycémie, etc., etc., etc. Voilà. On aura des nanorobots qui vont circuler dans le cerveau et qui, eux, seront pas là pour détecter, mais pour stimuler, justement, telle ou telle zone de notre cerveau. D'accord ? Ah, ça, je vois que ça vous laisse... Ouais. D'accord. Mais ça, c'est pas la science-fiction, hein, j'insiste. Ça, c'est des choses qui sont déjà... voilà, les pneus inusables, les textiles qui ne se salissent pas, etc. C'est des choses qu'on sait faire. Simplement, en fait, ils sont pas diffusés parce que, déjà, qu'il y a 6 millions de chômeurs, sur le plan industriel, si on faisait en plus des objets inusables... on imagine la situation de l'industrie manufacturière, enfin en France, mais même partout d'ailleurs. Enfin, voilà. Donc ça, c'est les quatre grandes catégories de performance, enfin de choses que les transhumanistes veulent améliorer. Mais vous voyez que dans tout ça, finalement, il y a un point commun dans tout ça, c'est le corps. Il faut voir que pour les transhumanistes, le corps, en fait, c'est quelque chose qui doit être là aussi fondamentalement transformé. Pourquoi ? Parce que en fait, le corps, il est limité, le corps, il souffre et le corps, il meurt. Donc en fait, ils le disent eux-mêmes, c'est un truc raté dans la création. Donc si l'humain a la capacité de faire un truc, un corps qui marche, on va le faire. Donc il y a un rapport au corps qui est assez curieux, qu'ils veulent complètement changer du tout au tout. Donc eux, ils sont effectivement, donc là on est sur les hybridations homme-machine, c'est-à-dire que pour eux, il faut que effectivement l'humain soit de plus en plus hybridé. Mais c'est pas la science-fiction. Quand on voit qu'on fait des cornées artificielles, quand on voit qu'on fait des œsophages artificiels, quand on voit qu'on fait des cœurs artificiels, hein, une greffe à Pompidou, là, il y a quelques mois, une greffe au CHU de Nantes, là aussi, d'un cœur artificiel, c'est, voilà. Et puis ça a commencé avec la prothèse de hanche, hein, je veux dire. Voilà. Sauf que plus ça va aller, et plus ça va concerner d'organes, et en l'occurrence, des organes qui seront de moins en moins des organes mécaniques comme une hanche, et de plus en plus des organes vitaux, voire des organes qui pensent. Puisque dans l'hybridation homme-machine telle qu'elle est vue par les transhumanistes, à terme, le but, c'est que notre cerveau, qui est quand même très limité, beaucoup plus limité que le disque dur d'un ordinateur, voilà, en termes de mémorisation, en termes de etc., c'est de pouvoir hybrider effectivement un cerveau avec même pas un ordinateur, mais avec la toile. Voilà. Alors pour là, ça commence à vous souffler vraiment là. Hein. Alors, mais pour rendre tout ça réel, il n'y a qu'à se dire, les transhumanistes l'expliquent, hein, Jean-Michel Tronc, qui est un auteur transhumaniste qui a écrit beaucoup là-dessus, dit, mais les ordinateurs, quand on regarde, il y a 50 ans, les ordinateurs, en fait, c'était des armoires énormes qui tenaient dans une pièce comme ça. Après, ça a été des ordinateurs de bureau comme ça. Maintenant, c'est des ordinateurs portables. Et puis, en fait, avec nos smartphones, là, nos téléphones portables, en fait, on a plus d'informatique que ce qu'il a fallu à l'époque d'informatique pour aller sur la Lune. On a une capacité incroyable. On est comme ça. Et l'étape d'après sur laquelle travaille le marketing des opérateurs téléphoniques, c'est de nous greffer un téléphone derrière l'oreille. Mais vous voyez que le mouvement est celui-ci. Le mouvement, c'est effectivement que l'informatique, le numérique, enfin tout ça se rapproche de plus en plus et soit de plus en plus intégré à notre corps. Donc c'est pas simplement... C'est là où je dis que c'est pas la science-fiction. C'est-à-dire que c'est le mouvement. Voilà, et on le voit bien quand on se prenne dans les rues, enfin à Paris, etc. Tout le monde est là avec son portable. Et évidemment, voilà, le marketing, l'étape d'après, c'est de nous le greffer là. Les Google Glass, vous savez, ces lunettes, c'est aussi pour pouvoir, avec la pensée, avec le regard, pouvoir justement éviter de prendre son smartphone, etc. Donc de plus en plus, finalement, on va internaliser dans notre corps justement des choses qui se rapprochent de plus en plus de nous quand on prend un peu de recul sur les 50 dernières années et qui bientôt seront à l'intérieur de nous. Donc on sera de plus en plus hybridé et donc notre cerveau sera hybridé directement avec la toile. Hein ? Et ça, ça fait partie un petit peu de la vision justement, non seulement anthropologique, mais aussi sociétale, cybernétique, qui est que nous sommes tous une particule d'un réseau global, qui est le réseau universel, voilà, et qu'on pourra donc tous être en relation entre nous, de cerveau à cerveau. Et là aussi, c'est pas de la science-fiction. Il y a des expériences qui commencent à fonctionner, qui sont assez élémentaires, mais qui commencent à fonctionner, de télépathie par imagerie transcérébrale. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en Inde, il y a quelqu'un qui est aux États-Unis, il y a un type qui est en Inde, qui a des électrodes, etc., bon, assez compliquées pour détecter, pour émettre des signaux électriques. Quand on pense, pour ceux qui pensent, voilà, quand on pense, en fait, voilà, le cerveau, les neurones, c'est que des circuits électriques. Hein. Donc on émet en fait des fréquences électriques. Alors selon ce qu'on pense, telle ou telle partie du cerveau, voilà. Et donc il y a des électrodes et des casques, etc., qui vont récupérer cette impulsion électrique, qui vont la transmettre à l'autre bout du monde. Ça c'est facile avec le réseau Internet, etc. À quelqu'un d'autre qui a lui aussi finalement son casque machin, voilà, et qui va donc recevoir la pensée de l'autre et qui va l'écrire. Et ça, c'est des expériences aujourd'hui qui fonctionnent. D'accord ? Ça calme, hein, ça aussi. Hein. Ça calme. Ça calme. Et donc, dites-vous bien qu'on est vraiment qu'au début, quoi, de la télépathie. Alors, pas au sens où Freud l'entendait, d'inconscient à inconscient, mais là, vraiment de cerveau, de cortex à cortex. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, à terme, les transhumanismes, en fait, veulent se passer du corps et que la réalité biologique, dans l'esprit des transhumanistes, doit reculer devant la réalité non biologique. Que l'intelligence biologique, celle qui repose sur nos neurones, sur notre incarnation, pour le dire de façon chrétienne, doit reculer de plus en plus vers une intelligence et une réalité non biologique. Et l'immortalité que les transhumanistes appellent de leur vœu, c'est une immortalité cybernétique. Donc quand ils disent, en fait, on va pas mourir, bien sûr, le corps pourra, comme il sera réparé de tous les côtés, qu'on sera des cyborgs, hybrides des robots, d'une certaine façon, on survivra. Mais c'est pas ça pour eux l'enjeu. Pour eux, l'enjeu, c'est l'immortalité cybernétique. C'est-à-dire que moi, quand je mourrai, voilà, et que je vis à une époque où les transhumanistes seront arrivés à leur fin, en fait, on va tout de suite télécharger sur un peu une clé USB, on dirait aujourd'hui, ça s'appellera pas comme ça dans un grand temps, mais une clé USB, tout mon cerveau. En fait, et il y aura une clé USB, on dira, voilà, ben ça, c'est le cerveau de Jean-Guilhem, qu'on connectera à tous vos autres cerveaux, rigolez pas vous aussi, ça vous avait arrivé. Qu'on va connecter, en fait, et donc, comme ça, c'est ça qu'ils appellent l'immortalité cybernétique. Donc, en fait, moi, ma personnalité, Jean-Guilhem, en fait, comme c'est contenu dans mon réseau neuronal, en fait, je serai immortel. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, leur affaire. Et puis, dernière chose, peut-être, sur de quoi parle-t-on sur le transhumanisme, c'est, donc, en fait, les robots. Je disais un peu les quatre points d'amélioration. Donc, le rapport au corps, vous voyez, qui doit être dépassé, en fait. Voilà. Le corps doit être dépassé. La réalité corporelle doit être dépassée. Voilà. Et puis, dernier point, c'est les robots. Donc, les robots, là aussi, pour dire que c'est pas la science-fiction, c'est aujourd'hui. On en entend de plus en plus parler dans la presse de ces affaires de robots, mais il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous. Notamment, je pense à la Corée du Sud, qui est très en pointe, ou le Japon, qui est très en pointe sur ces choses. Il y a au Japon aujourd'hui des robots de compagnie. Il y a en Corée du Sud des institutrices qui sont des robots. Voilà, parce que l'institutrice, c'est vrai qu'elle a quand même, Yvette, bouchez-vous les oreilles, mais elle a quand même beaucoup d'atouts, l'institutrice. Elle se met jamais en grève, elle est jamais malade, elle a jamais d'humour, elle connaît, elle a jamais de, elle peut connaître, enseigner 10 ou 15 langues différentes, 20 matières différentes. Et puis quand on essaye de lui inculquer une nouvelle méthode pédagogique, bah le robot, il sait faire, quoi. Voilà. Donc c'est beaucoup plus pratique qu'une institutrice. Et donc en Corée du Sud, ils sont pas embêtés. En fait, ils ont organisé des classes comme ça où il y a une institutrice qui pilote en fait 6 robots dans 6 classes. Voilà, et qui vient voir, grosso modo, comment ça se passe, quoi. Voilà. Donc c'est déjà dans la réalité. Il y a, à l'été 2013, il y a un spationaute japonais, qui est allé dans l'espace, hein, il faisait son métier, il est allé dans l'espace, et en fait, il est parti tout seul, et donc il y a eu un test avec un robot de compagnie, justement. Et ce robot de compagnie, donc il était petit, il n'avait pas forme humaine, mais par contre, il avait été construit, élaboré, conceptualisé pour être dans l'empathie. Et donc, en fait, ce robot, en fait, il était là pour percevoir. Il avait été, alors, je sais pas si on peut dire programmé, parce que les constructeurs ont dit qu'il avait aussi sa part de libre arbitre. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Il avait été programmé pour sentir l'état d'émotion de son compagnon spationaute. Alors, comment faisait-il? Bon, alors, en fait, il avait, avec ses yeux bio-ioniques, enfin, il sentait l'expression du visage. Si le visage était un peu fatigué, affaissé, ou au contraire, voilà. Et puis, beaucoup à l'intonation de voix. Si la voix était un peu traînante, si elle était un peu triste, au contraire, c'était... Et donc, non seulement il pouvait percevoir ça, mais en plus, comme il était vraiment dans l'empathie, eh ben, il pouvait manifester donc, il pouvait donner comme ça des coups de main sur le visage, quand il sentait que son compagnon spationaute était pas en pleine forme, il faisait comme ça, et puis il lui disait en japonais, mais si, mais tout va bien se passer, enfin, je sais pas quoi. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, on est sur des robots qui sont pas simplement sur des fonctions utilitaires, genre passer l'aspirateur ou je sais pas quoi, mais voyez où le but c'est vraiment d'humaniser les robots, à mettre en raison, c'est ce que je disais à l'instant, de robotiser les humains. Et donc c'est là où on va être de plus en plus amené à vivre avec des robots. Et il y a beaucoup de séries télévisées, notamment une qui a eu pas mal de succès sur Arte qui s'appelle Real Humans. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est une série suédoise ou norvégienne, je ne sais plus. avec justement une famille suédoise. Bon, voilà, le papa, la maman, les deux enfants dont, qui sont grosso modo ados. Et puis, en fait, ils achètent justement un robot. Mais à cette époque-là, en fait, le robot a en plus une, le cyborg a en plus un aspect humain. Là aussi, chose qu'on est capable de faire aujourd'hui. On connaît suffisamment de choses sur la peau, par exemple, pour donner vraiment une peau avec son élasticité, une expression du visage, etc. Donc, on est capable de faire des robots qui sont humanisés aussi sur l'aspect physiologique, physique, hein, sur l'apparence physique. Voilà. Donc, il faut se préparer à vivre effectivement de plus en plus avec des robots. Il y a déjà des associations aux États-Unis qui travaillent sur une déclaration, comme il y a la déclaration des droits de l'homme, la déclaration des droits du robot. Et quels sont les droits respectifs des humains par rapport aux robots? Faut-il leur conférer une dignité au même niveau que la dignité des humains? Voilà, on entend ça sur le monde des animaux, mais sachez que ces débats existent déjà aux États-Unis sur les robots. Voilà. Dans l'idée évidente pour les transhumanistes que de toute façon, bien, enfin, les robots, c'est l'avenir de l'homme, donc faudra vivre avec. Donc, il faut déjà commencer à organiser la vie en société avec ces robots. Voilà. Alors, pour finir sur cette partie, en fait, est-ce que ces perspectives sont crédibles? Alors, en fait, je vous ai déjà répondu plusieurs fois oui, mais j'aimerais développer un petit peu pourquoi ces perspectives me paraissent réellement crédibles. Premier élément, un élément rétrospectif. Le deuxième sera un élément plus prospectif. L'élément rétrospectif, c'est simplement de se dire est-ce que il y a 50 ans, enfin, je sais pas. Voilà, je vais dire autrement. Si moi j'avais demandé à ma grand-mère, c'est quand même pas, il y a pas si longtemps quand même, ma grand-mère. Est-ce que tu crois, mamie, qu'on va pouvoir cloner une brebis? Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir congeler du sperme? Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir séquencer le génome? Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir faire des petits bébés dans une éprouvette? Si je lui avais dit ça, au mieux je me serais pris mais une claque, genre arrête de dire n'importe quoi, elle va te coucher. Voilà. Et pourtant tout ça, c'est des choses qui sont, voilà, on le sait, qui sont dans le quotidien. Et je passe encore sur les choses aujourd'hui qu'on peut faire, qui sont de reprogrammer des cellules, qui sont avec une seule personne peut avec le patrimoine génétique d'une seule personne, on peut à la fois créer des spermatozoïdes et des ovules, donc finalement une seule personne peut être papa et maman d'un enfant, bon, etc. Ça, c'est les manipulations génétiques qu'on sait faire aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que c'est pas parce que on l'imagine pas aujourd'hui que ça ne se produira pas. Et quand on voit la vitesse à laquelle finalement les choses ont évolué dans le domaine des biotechnologies, sciences du cerveau, etc. En gros, une, maximum deux générations, je pense qu'il faut être très modeste et se dire, oui, j'arrive pas à l'imaginer, mais c'est pas pour ça que ça va pas exister. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, qui est un élément pour moi de crédibilité prospectif, c'est que les transhumanistes, c'est pas des rigolos, quoi. C'est pas des rigolos, à savoir que ce sont aujourd'hui les gens les plus puissants de la planète. Google est une entreprise explicitement transhumaniste. Et aujourd'hui, Google est le maître du monde. C'est pas Barack Obama le maître du monde. C'est évidemment Google, vraiment le maître du monde. Et Google est une entreprise explicitement transhumaniste. Ils viennent d'embaucher comme directeur de la stratégie le numéro un, enfin le pape justement du transhumanisme. C'est toutes les petites entreprises de la Silicon Valley, vous savez, c'est toute cette vallée qu'on trouve dans la Californie, dans laquelle il y a plein de startups justement qui sont dans l'innovation, etc. Et notamment dans la convergence de comment, qui travaillent beaucoup sur la convergence de ces quatre grandes thématiques de technologie. C'est aussi la NASA et c'est aussi une flopée d'universitaires qui sont dans les universités les plus réputées du monde. Stanford, Oxford, Yuclay, enfin, etc. quoi. On a affaire, en gros, j'ajoute aussi Bill Clinton, qui n'est pas transhumaniste explicitement, mais qui a objectivement financé et promu, quand il était président des États-Unis, la recherche transhumaniste. Donc tout ça pour dire qu'on a affaire aux gens qui ont le pouvoir politique, qui ont le pouvoir financier, qui ont le pouvoir sur les intelligences et qui ont le pouvoir technologique. Bon, avec ça, si ça vous convainc pas que effectivement ces perspectives sont crédibles, bon, là j'arrête tout. Je veux dire, il faut voir que de mon point de vue, jamais personne n'a eu autant de puissance. Un petit nombre de personnes n'a eu autant de puissance finalement dans ses mains. On feint de croire qu'on vit à une époque hyper démocratique. Personnellement, enfin, ça nous amènerait sur un autre champ. Je ne le crois pas du tout. Parce que aujourd'hui, les leviers les plus puissants sont aux mains vraiment d'une toute petite partie de la population mondiale que personne ne contrôle, que personne n'a élu et que personne ne verra jamais. Voilà. Là-dessus, il faut être extrêmement lucide. Ces perspectives sont éminemment crédibles. Alors, comment se situer par rapport à cela? Il me semble qu'il faut essayer de trouver la ligne de crête. Donc, quand je dis ligne de crête, ça veut dire que ça paraît quand même difficile, entre l'idolâtrie et la diabolisation, qui sont finalement les deux penchants naturels que, en fonction de son caractère, de son histoire, de ses valeurs, voilà, qui pourraient nous attirer plus vers l'un que vers l'autre. Donc, ces deux postures, la première, l'idolâtrie, donc la technolâtrie, c'est-à-dire l'idolâtrie de la technique, c'est d'être un petit peu là en BA, en disant « Ah, mais voilà, enfin, il y a que justement la technologie et puis le progrès technologique qui nous apportera le salut, comme je l'ai entendu encore hier matin à ce colloque de transhumanistes. » Voilà, enfin, la grande marche vers le progrès, voilà, c'est vraiment la technologie. Et puis, voilà, parce que la technologie, bah, ça réduit les inégalités, ça rend tout le monde gentil, et puis ainsi de suite. Et puis, on sera tous frères et sœurs, quoi, grâce à la technologie. Voilà, ça, c'est la technolâtrie. Mais il y en a. Enfin, je veux dire, les transhumanistes sont quand même beaucoup là-dedans, quoi. Voilà. Et puis, en même temps, il y a la seconde posture, qui est un petit peu la diabolisation, qui est une posture beaucoup plus, on va dire, pessimiste. Et qui considère que finalement tout ce qui est de l'ordre de la technologie, c'est du péché. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de du progrès technique, c'est pécamineux. Un peu comme si finalement, si on continuait sur le chemin des découvertes technologiques, on était vraiment en route vers l'apocalypse. Voilà. Je schématise un petit peu, mais vous voyez un petit peu au moins les tendances. Hein. Je force volontairement le trait, mais voilà, on peut être facilement penché vers l'un ou vers l'autre. Et il y a en dehors des transhumanistes, il y a des intellectuels, donc des gens qui pensent, qui ont plus de un neurone, qui, là, pour le coup, ben, disent on va vraiment vers du progrès, et d'autres qui disent on va vraiment vers, au contraire, de l'apocalypse. Tout ça pour dire que il faut vraiment faire marcher son discernement. Et finalement, il me semble que justement, les interrogations que suscite le transhumanisme peuvent être abordées peut-être plus sereinement à partir de deux présupposés. D'abord, premier présupposé, c'est que la technique en elle-même, ou les technologies en elles-mêmes, sont ambivalentes. Elles sont ambivalentes, ça veut dire qu'elles portent autant d'effets bénéfiques que d'effets destructeurs. Voilà. Enfin, exemple vraiment, mais bateau, pardonnez-moi de la banalité, mais c'est le nucléaire. Voilà. Enfin, c'est les effets les plus destructeurs qu'accumulent toute l'histoire de l'humanité, et en même temps, évidemment, des effets très. Donc, la technique en tant que telle est ambivalente. Et ensuite, par rapport à la définition, enfin, en tout cas, à la finalité de la technique, c'est qu'elle n'est pas pour l'homme d'abord de l'ordre du péché, je dirais par principe, mais elle est pour l'homme de la nécessité pour pouvoir vivre. Et je crois que c'est important de replacer, de recaler la technique à sa place. La technique n'apporte pas le salut. Par contre, l'homme a, depuis qu'il existe, il a développé la technique, mais comme une nécessité pour pouvoir vivre. Donc en gros, ces deux présupposés, c'est voilà, elle est ambivalente et en même temps, elle doit bien être remise à sa place d'outil qui est nécessaire à l'homme pour qu'il vive mieux, notamment dans son environnement. Et donc, il me semble que ces deux éléments, ces deux présupposés, peuvent nous amener alors donc à la deuxième partie, qui est quelles questions ça pose. Et là aussi, de façon un petit peu schématique, mais c'est pour fixer peut-être un peu les idées, il me semble qu'il y a peut-être deux registres de considération. Un registre anthropologique. Alors j'utilise ce mot vraiment avec beaucoup de sur la pointe des pieds parce que je ne suis pas philosophe, je suis pas théologien. Il y a des gens beaucoup plus experts et légitimes que moi pour voilà aborder ces questions. Mais anthropologique, je veux dire par là des questions qui concernent tous les hommes et qui peuvent être partagées par des chrétiens ou des non-chrétiens. Donc première nature de considération, des questions sur l'homme. Avec un grand âge, nature anthropologique. Et puis, deuxième nature de considération, des questions cette fois-ci qui concernent les chrétiens eux-mêmes, parce que le transhumanisme interroge quand même aussi quelque chose, j'allais dire, de la foi chrétienne. Alors, on va reprendre un petit peu ces deux points, si vous voulez bien. D'abord, premier point, réflexion, un petit peu, considération de nature anthropologique. Alors, moi, évidemment, moi, toutes ces perspectives technologiques, quelque part, moi, ça suscite, un émerveillement incroyable devant l'intelligence et la puissance créatrice de l'homme. Enfin, moi, c'est d'abord un cri d'émerveillement. Mais devant la puissance créatrice de l'homme. Mais quand je dis ça, je vois bien à quel homme je pense aujourd'hui. Par contre, ce que je vois moins bien, c'est finalement à quoi ressemblera l'homme dans 50 ou 100 ans, quoi. Voilà, aujourd'hui, je vois bien. Mais dans 50 ou 100 ans, moi, j'ai quand même du mal à imaginer tout ce qu'on a décrit. Voilà. Et d'une certaine façon, le grand absent pour moi, des réflexions du transhumanisme, c'est l'homme lui-même. Finalement, pour le dire autrement, beaucoup de scientifiques, en fait, voient le monde comme un jeu de Lego. Un jeu de Lego, c'est-à-dire que de Lego, la marque L-E-G-O, hein, enfin, beaucoup de Lego, L'E-G-O aussi chez les scientifiques, mais là, en l'occurrence, de Lego, L-E-G-O. C'est-à-dire que, bon, finalement, l'homme, c'est un conteneur de gènes. Et puis, voilà, il y a des organes artificiels qu'on peut faire, des fers, etc. Mais finalement, la finalité de tout ça, c'est, ça n'est pas, alors on va dire très peu pour être, voilà, mais enfin, dans la vraie vie, ça n'est absolument pas pris en compte par les scientifiques. On cherche, on voit ce qu'on trouve, et tout ce qui est possible est faisable. Et doit être fait. Voilà. Déjà en 1972, François Jacob, donc qui a eu le prix Nobel, qui est un grand biologiste français, prix Nobel, qui travaille à l'Institut Pasteur, prix Nobel de médecine en 1972, déjà à cette époque-là, au moment de son prix Nobel, en fait, il disait, on n'interroge plus la vie aujourd'hui dans les laboratoires. On n'interroge plus la vie aujourd'hui dans les laboratoires. Je peux vous garantir, pour le coup, par expérience, que 50 ans plus tard, on n'interroge toujours pas plus. Voilà. Voire encore moins, parce qu'on n'a plus le temps de faire de la philosophie, puisque les technologies sont tellement efficaces qu'on ne va pas s'occuper de ça. On est dans un jeu de construction. Donc, on construit l'humain de demain, mais finalement, en s'interrogeant absolument pas sur qu'est-ce qui caractérise finalement l'humain. En fait, on va modifier l'homme, on va lui mettre des électrodes dans le cerveau, on va l'hybrider à un robot, mais est-ce qu'on se demande quel type d'homme on veut créer ? Un peu comme si finalement il y avait une espèce de fascination pour la transformation et qu'on ne réfléchissait plus du tout aux finalités de cette transformation, mais simplement aux transformations elles-mêmes, tellement on est devenu, enfin l'homme, l'humain, est devenu surpuissant finalement dans sa capacité à se créer lui-même. Autrement dit, il me semble que la transformation transhumaniste, est-ce qu'elle a réellement pour objet ce qui fait l'humanité de l'homme ? En fait, il me semble que, au contraire, l'objet du transhumanisme tel qu'il se décrit aujourd'hui, c'est quand même essentiellement de transformer, on va dire, ce qui fait ressembler l'homme à la machine ou à l'animal. On va développer sa mémoire, son intelligence, tout ça, c'est l'ordinateur à calculer plus vite. On va développer sa capacité, justement, un peu comme des animaux à dimension animale qui nous habite, hein, à courir plus vite, à respirer autrement, à pas dormir, etc., etc., etc. Un peu comme si, finalement, on voulait être aussi fort que des robots, que des machines. Et à ce petit jeu-là, évidemment, on va perdre. L'humain va perdre. Confère la phrase d'introduction que nous donnait Bernard. Forcément, à un moment donné, ceux qui resteront comme nous sommes aujourd'hui, on deviendra forcément des déclassés, des chimpanzés. Forcément, puisque les autres seront augmentés. Donc en fait, le transhumanisme, pour moi, ne s'attache pas à réfléchir à plus d'humanité, mais à en réalité augmenter les performances de l'humain. Ce qui, pour le coup, n'a juste aucun rapport. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais courir plus vite et que je serai plus intelligent que, pour le coup, je serai plus humain. Et les transhumanistes, finalement, se préoccupent relativement peu, voire pas pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs, de ces questions. En fait, la question qui est posée, c'est par cela, et ça, il faut l'entendre positivement, c'est existe-t-il en fait une nature humaine ? Et les transhumanistes répondent, bah non, il n'existe pas vraiment de nature humaine au sens propre du terme. Voilà. Et notamment pour nous chrétiens, l'idée de l'âme est quelque chose quand même qui représente du sens, et même si on n'est pas chrétien, enfin, il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà. Mais pour les transhumanistes, ils disent bien, en fait, l'âme, en fait, c'est une invention du Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelait l'âme au Moyen-Âge, aujourd'hui, on l'appelle l'ADN. Voilà. Mais ils le disent, ils l'écrivent. Et là aussi, là, je peux citer, c'est des sociologues américaines hein, qui travaillent dans une très grande université. Et ils disent, en fait, l'ADN, comme l'âme au Moyen-Âge, est devenu un objet d'adoration sain et immortel. Donc, vous voyez, on est sur une vision extrêmement matérialiste et finalement des choses, et que ce qui pour nous représente je sais pas quoi de l'immatériel, du transcendant, du spirituel, bah non, finalement voilà, c'est du gène, c'est du neurone, c'est de la cybernétique, c'est de l'information. Ça n'est pas plus. Voilà, personnellement, quand j'entends ou je lis ces sociologues, je fais mien le proverbe hébreu qui dit qu'on ne remplace pas une âme par une autre âme. Je veux dire, on ne remplacera jamais, pour moi en tout cas, une âme par de l'ADN. Donc finalement, il me semble que l'enjeu pour tout humaniste, et en particulier chrétien, mais tout humaniste, c'est de discerner ce qui se joue dans le transhumanisme. Et ce qui se joue, me semble-t-il, c'est la capacité à se donner des limites. J'ai entendu dans les interventions précédentes que la question des limites a été posée plusieurs fois. Il me semble que ce qui caractérise l'humain, c'est sa capacité à donner des limites. D'une certaine façon, certains auteurs, et je les rejoins, considèrent que finalement l'homme est devenu vraiment homme au moment des 10 commandements. Quand il a appris à justement dire, enfin tous ces commandements que vous connaissez, qui sont formulés par la négative, parce que justement, ce qui caractérise l'humain, c'est peut-être sa capacité à se donner des limites. Ce qui est compliqué, parce que ce qui caractérise l'homme, c'est que son désir est infini. Son désir est infini parce qu'il a un désir de l'infini. Mais la différence entre l'homme et l'animal, c'est-à-dire que l'animal, lui, la lionne, elle a faim pour elle ou pour ses enfants, elle va attraper une gazelle ou une antilope, je n'en sais rien, mais elle va en prendre une ou deux, juste ce dont elle a besoin. Le propre de l'homme, parce que son désir est infini, c'est que quand il a envie de quelque chose, il est capable de tout dévaster. Et on le voit avec l'écologie, on le voit dans le domaine social, on le voit là. Donc si l'homme ne se donne pas de limites, en fait, il est inhumain. Pour le dire autrement, l'homme s'humanise quand il se donne des limites. Voilà. Et ça, il me semble qu'il y a une vraie question anthropologique là qui se pose et qui est posée par le transhumanisme. Pour le dire autrement, le transhumanisme se concentre beaucoup sur les performances, mais qu'en est-il de ce qui fait l'humanité de l'homme ? Moi, en tout cas, je ne prétends pas du tout connaître exhaustivement ce qui se joue dans le transhumanisme, mais en l'occurrence, je n'ai quand même jamais ni lu ni entendu, finalement, qu'il s'intéressait à ce qui, pour moi, qualifie véritablement l'homme, qui est l'imagination, le langage, la sensibilité au beau, la sollicitude, la gratuité, la capacité à donner, l'accueil, justement, de sa propre fragilité. Il va être cité tout à l'heure Jean-Michel Beignet et l'importance qu'il accordait, justement, à l'accueil de la fragilité, la place qu'on laissait aux fragiles dans la société. La vie intérieure, la finitude, comprise comme faisant partie d'un cycle, justement, de la vie. Un corps non pas vécu comme un conteneur de gènes ou un paquet de neurones, mais un corps vécu comme le lieu de la rencontre en unité profonde avec ce qui nous dépasse et ce qui nous habite. Une conscience, une liberté, une conscience qui s'appuie sur une liberté et réciproquement. L'expérience de l'amour, l'union des cœurs, l'union des corps, l'authenticité des émotions et pas des émotions créées artificiellement sur commande ou décidées par des gouvernants ou par des multinationales. Il me semble que tout ça... Je tourne un peu autour, je ne sais pas comment mieux dire, vous pourrez peut-être me le dire, ce qui qualifie l'humain, mais enfin, il me semble qu'il y a quelque chose de ça quand même, de notre humanité, de tout ça, et puis peut-être, sûrement de plein d'autres choses, et que tout ça, c'est de fait complètement absent discours des transhumanistes. Tout ça pour dire quoi, sur ce point-là? Pour dire que il me semble que la question, c'est pas de devenir transhumain ou post-humain, mais c'est de devenir plus humain. Et que ça, pour le coup, ça n'est pas le sujet des transhumains. Et par contre, moi, en tant que, évidemment, je peux pas faire comme si t'étais pas chrétien, mais en tant qu'homme, en tant que citoyen, je préfère qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui va nous rendre collectivement et individuellement plus humains que qu'est-ce qui va me rendre transhumain ou post-humain. Et là, c'est pas qu'un jeu de mots. C'est-à-dire que je pense que c'est véritablement là la question qui est posée. Voilà. Un, sur la question des limites, et deux, sur ce qui qualifie véritablement notre cœur et notre âme. Voilà. Dans cette capacité, en gros, à la gratuité, à la fidélité, à la fragilité et à l'intériorité. Voilà, si on veut le dire de façon un peu résumée. Deuxième nature de réflexion, et ensuite donc j'en arrêterai là. Deuxième nature de réflexion, cette fois-ci, en tant que chrétien, comment, en quoi on est interrogé? Alors, il me semble que on est frontalement interrogé. Pourquoi? Parce que finalement, le transhumanisme se présente comme un humanisme. Et encore une fois, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais eux le vivent vraiment comme ça. Mais j'allais dire, preuve qu'effectivement, ils sont quand même dans une réflexion sur l'humanisme, en tout cas sur l'homme, c'est que finalement, ils abordent toutes les questions essentielles de l'humanité. Ils abordent la question de la fragilité. Bon, ils en veulent plus, mais, enfin, je veux dire, ils l'abordent. Voilà. Ils abordent la question du salut. Le salut vient par la technologie. Ils abordent la question de la mort. Voilà. Ils abordent la question du corps. Donc, vous voyez, là, on commence à rentrer dans du sérieux, qui est de dire que le transhumanisme prend de plein fouet, finalement, des questions. Justement, comment la vie advient, comment on crée la vie, comment on meurt, quel est le salut, etc. Qui sont des questions complètement anthropologiques, mais qui sont des questions qui sont 100% dans le champ du christianisme. Voilà. La question du corps, la question de l'incarnation, la question du salut, enfin tout ça, enfin c'est quand même des questions 100% chrétiennes. Donc on peut pas, considérer que c'est simplement des questions qui sont un peu extérieures à nous. Ça les remet quand même directement en question. Alors, là aussi, je vais un petit peu forcer le trait, mais je ne crois pas tant que ça quand même. Il me semble que sur ces questions de l'humain, il y a quand même des distinctions quand même assez claires et qu'on peut essayer d'être en dialogue sans forcément chercher une espèce de consensus mou qui, de mon point de vue, trouverait vite ses limites. Je m'explique. L'humain, le christianisme, considère qu'il reçoit sa vie de Dieu. Le christianisme considère que le corps est habité par l'Esprit Saint. Le christianisme considère que l'homme est sauvé par la grâce. Le christianisme considère que l'homme est appelé à entrer dans le mystère de la résurrection de la chair. Au moins pour quelques éléments essentiels. Le transhumanisme, si on prend un petit peu tout ça, pour sa part, c'est différent, parce que lui, il s'affranchit de l'unité entre le corps et l'âme. Parce que pour eux, il y a une âme qui est une âme matérielle, et que le corps, il faut le dépasser. Le transhumanisme compte sur la technologie pour atteindre l'immortalité. Voilà, ce qui n'est pas, me semble-t-il, quand même, le projet, la vision chrétienne du projet de Dieu sur nous. Bon. Le transhumanisme fait reposer la transformation de l'homme exclusivement sur son intelligence, sans aucun recours à l'action divine. Si bien que finalement, vous savez, dans le psaume 4, il y a un verset qui nous fera voir le bonheur. Ben, les transhumanistes, eux, évidemment, ils répondent la technologie, voilà, qui promet justement la mort et la mort de l'inhumanité grâce à des manipulations génétiques et à des implants. On pense évidemment tout de suite à cette phrase donnée par le serpent dans le livre de la Genèse, à Adam et Ève, hein, « Vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux ». C'est un peu facile, mais en même temps, on est quand même dedans, quoi. On est quand même dedans. Alors, évidemment, l'affirmation de saint Paul qu'on trouve dans l'Écriture, hein, dans la première lettre aux Corinthiens, la mort a été vaincue par le Christ. Bah, vous voyez que le transhumanisme, de fait, peut faire tous les discours qu'il veut en disant que, est frontalement contesté par le fait que la mort ait été vaincue par le Christ. Hein. Donc, ça touche quand même à des choses qui concerne directement quand même effectivement le christianisme et la vie spirituelle. Voilà. Et pourtant, ça me paraît important, il ne faut pas, pour le coup, contester l'idée de la transformation de l'homme. Parce qu'en fait, c'est une idée non seulement fondamentalement chrétienne, mais fondamentalement judéo-chrétienne. En fait, il n'est question dans la vie spirituelle que de transformation. Alors, en langage catho, on appelle ça la conversion. Mais il n'est question que de transformation. Dans la Bible, l'humanité qui est créée, elle n'est pas stable et inaltérable. Au contraire, la Bible, le message de la Bible montre que l'homme est un être en devenir, que nous sommes appelés à être plus, en tout cas à être autre que ce que nous sommes au départ. En fait, l'être humain tel qu'il est décrit dans la Bible est un être en devenir, un être inachevé. Voilà. Sa pleine humanité est à conquérir. Et certains auteurs, enfin moi ça me parle beaucoup, considèrent que Adam, qui apparaît comme le premier homme, en fait n'est pas une figure du passé, mais qu'il est plutôt une promesse. Qu'il est plutôt une promesse, justement, une promesse comme le futur de l'humanité. Hein. Et ces auteurs, notamment, en particulier, hein, s'appuient sur un verset que moi j'aime beaucoup, qu'on trouve dans la première épître de Jean, qui dit ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Voilà. Et donc ça veut dire que voilà la logique de la transformation, la logique d'un homme inachevé en devenir, c'est une logique fondamentalement judéo-chrétienne, biblique et encore plus évangélique. Hein. Quand on a Jésus qui s'adresse à Nicodème et qui lui dit « il vous faut naître à nouveau de l'eau et l'esprit » ou bien « laissez mourir le vieil homme et revêtez l'homme nouveau », on est vraiment dans cet appel à la transformation. Sauf que là où il n'y a plus de convergence, c'est que dans la perspective chrétienne, cette transformation, c'est l'œuvre de la grâce, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nos cœurs, notre liberté n'étant que sollicitée pour laisser toujours davantage de place au travail de l'Esprit Saint en nous et de nous donner les moyens, justement pour cela, dont l'oraison est quand même un moyen assez extraordinaire. Alors que cette transformation, dans une perspective transhumaniste, c'est au contraire une transformation, j'allais dire, du seul travail de l'intelligence à la force du poignet. Donc on voit que on n'est pas du tout finalement sur les mêmes modalités justement de transformation. Pour terminer, c'est pas pour terminer, mais juste pour terminer quand même. Hein, pour le dire, de façon peut-être plus scientifique, en fait, c'est le transhumanisme à cet égard, dans une perspective chrétienne en tout cas, est une utopie matérialiste à la fois gnostique et pélagianiste. Je veux dire par là gnostiste parce que la gnose, pardon, c'est donc ce qui met la connaissance. Hein, comme supérieur à la foi, d'une part, et qui introduit un dualisme définitif entre le corps et l'âme. Et puis pélagianisme, puisque, vous savez, cette doctrine, enfin, cette hérésie, enfin, ce qu'on peut appeler être une hérésie, c'est considérer que la puissance de la volonté est finalement plus forte que justement l'action de la grâce en nous. Donc si on veut analyser le transhumanisme avec des lunettes chrétiennes, finalement, on peut considérer qu'effectivement, c'est une forme moderne, très actuelle, de gnose et de pélagianisme. Et pour terminer, en guise de conclusion, je parlais de ces affaires de robots à une vieille femme que j'allais visiter, qui vivait toute seule à Paris, enfin voilà. Et alors, avec son bon sens, elle me dit, mais finalement, moi, ça me dit rien de bon, moi, toutes ces affaires de ces petits robots là, moi, je suis pas trop là, ça me dit rien de bon, ces affaires là. Voilà. Alors moi, je lui dis, oh bah oui, en effet. Bon. Alors, mais après, elle me dit, oui, mais bon, en même temps, s'il y a que des petits robots pour venir me rendre visite, en même temps, c'est peut-être mieux que rien. Et en même temps, c'est une phrase extrêmement brutale. Enfin, moi, qui m'a renvoyé à, si on veut en gros éviter que n'arrive trop vite un monde post-humain, il faut vraiment que chacun on soit attentif à être tous de plus en plus humains les uns avec les autres.
Dormez bien et faites de beaux rêves.
Si je peux ajouter juste une chose, alors je donnais une session dans un monastère, en l'occurrence bon, de carmélite, vous voyez, c'est de la même famille, mais et comme ça plusieurs jours, je donnais voilà quelques causeries, et j'en donnais une, bon pas aussi longue et aussi détaillée, sur le transhumanisme. Et donc c'était une conférence du soir. Bon voilà, puis la communauté va se coucher. La mère supérieure avait décidé que les questions seraient pour le lendemain matin. Et donc, voilà, donc c'est ce qu'il lancera ce soir. Et donc le lendemain matin, donc voilà, on se retrouve avec la communauté. Et donc la mère supérieure dit bon ben voilà, est-ce qu'il y a des questions? Et là, je crois que c'était la plus vieille sœur de la communauté, une carmélite qui était vraiment mignonne et tout. Qui fait oui, mais j'ai une question. Ouais. Toute la nuit, j'ai rêvé de vos histoires de robots. J'espère que ça vous arrivera pas.